Je vous invite à continuer notre méditation sur le séjour des morts. On avait vu que l'expression séjour des morts, ça représente voilà, ce gros œuf où à la fois on s'aperçoit qu'il y a, c'est la même expression qui est employée pour dire ceux qui meurent en rejetant Dieu et ceux qui meurent dans la foi. Et donc on trouve ces expressions-là, le Sheol, le Hadès, qui était plus le séjour des morts ou les abîmes. Ou la fosse, qui était souvent plus employée pour désigner ceux qui mouraient dans l'incrédulité, on va dire. Et puis, on connaît cette expression qui est employée par Jésus lui-même, qui était une expression juive populaire, pour parler du sein d'Abraham, donc pour parler de ce lieu où, effectivement, il y avait donc les bienheureux, on va dire, qui étaient dans ce séjour-là. Pourquoi cette configuration-là? Parce qu'on avait vu, hein, je ne veux pas revenir sur tout, mais ça nous permet quand même de comprendre certains aspects, quelques termes qu'on va revenir dessus. Il nous est parlé du séjour du haut et du séjour du bas, hein, ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu cette représentation. Donc, on s'était arrêté la dernière fois sur la notion de la mort dans l'Ancien Testament. Et on s'était arrêté à ce niveau-là. C'est très intéressant parce que j'ai eu confirmation que chez les témoins de Jéhovah qui ne prêchent pas le paradis, pour eux on meurt, il y a juste 144 000 qui sont auprès de Dieu et puis les autres restent sur terre. C'est une fausse théologie. Hein. Mais ils ne prêchent pas le paradis. Pourquoi? Parce que quand ils expliquent la mort, ils expliquent la mort avec tous ces versets de l'Ancien Testament. Donc effectivement, et on l'a d'ailleurs nous-mêmes constaté, il n'y a pas beaucoup d'excitation dans le séjour des morts. Quoi. Ils sont là dans l'attente, ils sont paisibles, on se demande ce qui se passe. Mais il y a un événement qui est extraordinaire, c'est celui de l'œuvre de la croix. C'est là où on reconnecte avec notre petit passage initial, qui était l'épître de Pierre, nous aider que Christ, en esprit, est allé prêcher aux esprits en prison. C'était ça le but, c'était de comprendre, mais c'est quoi, c'est qui ces esprits en prison? Alors, avant d'aborder justement l'œuvre que Christ a fait à la croix, il est super intéressant quand même de repérer que Dieu avait préparé son peuple. Dieu avait préparé son peuple à la révélation de cet avenir glorieux. Si je prends un exemple, aujourd'hui, en tant que chrétien, on va dire que la vie avec Dieu, c'est plus qu'une religion, c'est une vie nouvelle, on est d'accord? On va parler de la nouvelle naissance, on va parler de la transformation du cœur, et pour nous, c'est un point essentiel, capital. C'est une théologie du Nouveau Testament, parce que sans l'œuvre de Christ à la croix, il n'y aurait pas de nouvelle naissance. Mais déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait préparé les cœurs, notamment en Jérémie. « Je transformerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. » Donc déjà dans l'Ancien Testament, il y avait des prophéties qui disaient « Il va se passer quelque chose !» et qui parlaient de cette nouvelle naissance. Quant au paradis, et quant surtout au changement du séjour des morts, il y a aussi des passages prophétiques. Je vais vous en lire deux, par exemple. Le psaume 49, verset 16. Psaume 49, verset 16. Il est écrit « Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. » Donc il y a un gars qui, sous l'inspiration, dit « Dieu va me sortir du séjour des morts. » Psaume 86, verset 13. Il est écrit « Ta bonté est grande envers moi et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. » Donc il y avait déjà des passages que je dirais prophétiques, d'inspiration prophétique, d'hommes, et ce ne sont pas je crois que je n'ai pas vérifié, mais il me semble que c'est essentiellement David, hein. Mais en tout cas, celui qui écrit ces versets-là n'est pas un incrédule qui va aller dans le séjour des morts inférieur, mais c'est quelqu'un qui sait qu'il va être auprès du Seigneur, mais il sait qu'il va être libéré de ce séjour des morts. Donc ça, il y a déjà, dans l'Ancien Testament, une annonce d'un changement d'état pour les âmes justes qui seront et qui sont dans le séjour des morts. Donc ça, c'est quelque chose de très important, de s'apercevoir que Dieu a annoncé quelque chose. Alors, Un principe fondamental entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est que la Bible explique que sous l'ancienne alliance, on sacrifiait, le pardon des péchés était pardonné au prix de sacrifices d'animaux. Ok ? Et le psaume 85, verset 5 dit cela. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple, tu as couvert ses péchés. Dans l'ancienne alliance, la notion de pardon des péchés existait parce qu'un sacrifice était fait, et comprenez l'image, le sang couvrait les péchés. En gros, vous avez un mur qui est complètement pourri, vous ne savez pas quoi faire, et ben vous mettez un bon coup de rouleau blanc dessus et il paraît comme neuf. Et c'est pour ça que les sacrifices étaient régulièrement répétés. Parce que le péché était pardonné, oui, il y a un coup de blanco dessus. Mais le problème, c'est que le mur, il reste toujours aussi pourri. Ça, c'est la notion du pardon des péchés dans l'ancienne alliance. Qui est tout autre, parce que qu'est-ce qui nous est dit avec Jésus ? Jean chapitre 1, verset 29. Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et ça, c'est ce qui fait toute la différence. Ça, c'est le principe fondamental. Ça, c'est la clé de compréhension de ce qui va se passer après. Avant, les péchés étaient couverts. Ok, on couvre, j'ai oublié, c'est pardonné, c'est réglé. Mais avec Jésus, c'est solutionné. C'est-à-dire qu'il n'est plus question de couvrir les péchés, il est question de ôter les péchés. Si on prend par exemple, c'est plus une question d'un mur qui est juste rafraîchi, c'est le mur qui est changé, d'où la notion de changement, de transformation. On peut prendre un exemple qui est très très parlant et bien plus explicite que l'histoire des murs. Il y a quelques délits, tu vois, qui sont marqués sur nos casiers judiciaires. Si vous faites quelques infractions lourdes, et ben vos infractions seront marquées dans votre casier judiciaire. Et en fonction des fautes que vous avez faites et de ce qui est inscrit sur votre casier judiciaire, il y a des emplois qu'on vous interdira. Parce qu'il faut avoir un casier judiciaire net. Et même si c'est juste une ligne, même si c'est réglé par rapport à la loi, même si vous avez fait de la prison pour ça, même si vis-à-vis de la justice des hommes, vous avez tout réglé, c'est marqué dans votre casier judiciaire et vous ne pouvez pas accéder à tel ou tel emploi. Et tant que vous êtes sur terre, c'est comme ça. Ça, c'est l'ancienne alliance. Tu as réglé ta dette, d'accord ? Mais ça reste fiché quand même. Ok, tu as réglé, tu as fait ton sacrifice, tu as payé ta dette à la société, mais c'est marqué avec Jésus. Le casier judiciaire est fait effacer. Blanc de blanc de blanc. Mais s'il a fait ça, le diable ! Et c'est blanc de blanc de blanc. Et c'est ça la différence foncière entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, lorsque Christ nous voit, il nous voit sans péché. Nous sommes sans péché. Nous sommes justifiés. Tiens, tu fais bien parce que c'est quelle référence ? C'est à Jean aussi, hein, où il nous dit que le sang, que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et c'est ça qui fait toute la différence. La plupart de ceux qui sont dans le sein d'Abraham, c'était des pécheurs qui croyaient effectivement que le sacrifice des animaux pardonnait leurs péchés. Oui, ils étaient pardonnés. Mais ils n'étaient toujours pas justifiés. Le péché était encore. Ils étaient en eux. Et donc, est-ce qu'un pécheur peut rentrer dans le ciel ? Impossible. Impossible. Et c'est là qu'on a toute la différence. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix ? Eh bien, tu peux mettre l'image d'après. Quand Christ est mort à la croix, voici l'agneau de Dieu qui a ôté le péché. des vivants, mais de tous les croyants. Et donc, une fois que celui qui a été pardonné est ensuite, par cette même foi, purifié, alors il a enfin la possibilité d'être en relation avec Dieu. Parce que si effectivement nous sommes sans péché, plus rien ne peut nous séparer du ciel. Alléluia. Alors je vous ai fait ce petit symbole, la croix, crac, qui a cassé la coquille du dessus, les âmes, qui passent par le pont de la croix et qui rentrent tout de suite dans le paradis avec un beau petit cœur. C'est mignon, hein? Donc ça, c'est une représentation. Mais c'est spirituellement ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi, effectivement, dans l'Ancien Testament, il n'est jamais parlé du séjour des morts avec la présence de Dieu. Il n'y a pas. C'est juste une question d'attente, une attente dans la foi. C'est pour ça que, si on reprend une expression de Hébreux, chapitre 11, verset 13, il est parlé de ceux qui sont morts dans la foi. Ils sont morts, mais ils étaient dans une dimension de foi, croyant qu'effectivement, un sacrifice était capable de leur pardonner. Ils croyaient en cela. Alors qu'est-ce qui s'est passé lorsque Christ est mort le jour où Christ est mort? Alors ça, c'est en Éphésiens, chapitre 4, verset 9. Alors vous pourrez le lire à la maison, parce qu'en fait, c'est le verset un peu compliqué, c'est 8, 9, 10. Mais moi, je vais vous le lire un petit peu en 9, 10 et 8, dans l'ordre. Et puis je vais intercaler 1 Pierre, chapitre 3. Comme ça, on va vraiment voir qu'est-ce qui s'est passé chronologiquement à la croix. Donc Christ est mort. On a vu déjà qu'il y avait une oppression spirituelle, etc. Et il nous est dit, Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre. Le mot enfer vient de ça, inférieur, enfer. C'est pour ça que j'ai gardé là, que j'ai transformé le mot Hadès en enfer. Éphésiens chapitre 4, verset 9, tu liras à la maison. Donc Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre. Là, on peut coller avec 1 Pierre chapitre 3, verset 18, où il nous est dit que par l'Esprit, Jésus est allé prêcher aux esprits en prison. En gros, il est allé annoncer « Ça y est, je suis mort pour vos péchés !» Verset 10, « Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. » Parce que Christ est mort, mais il nous est dit que bien plus, il est ressuscité et il est monté à la droite de Dieu. D'où l'explication qu'il a donnée au brigand à la croix, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Parce que le jour où il est mort, l'annonce de sa mort a été faite et il est monté aux cieux pour libérer toutes ces âmes qui étaient en attente dans la foi. Et spirituellement, ça s'est fait. C'est pour ça que l'expression « il est allé prêcher en esprit », c'est très important. Et puis il est monté. Est-ce qu'il est monté seul? Non. Éphésiens chapitre 4, verset 8 nous dit que non. Étant monté en haut, il a emmené des captifs. Il a emmené des captifs. Alors, si vous faites attention, autant en profiter tout de suite. Si vous lisez à la maison, vous verrez que la suite dit « Et il a fait des dons aux hommes ». Ce n'est pas par rapport aux gens qui sont morts, mais effectivement, le ciel nous a été ouvert depuis que Christ y est monté, que le voile a été déchiré, et quand il dit parler « Il a fait des dons aux hommes », c'est notamment tous les dons qui sont liés au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été envoyé sur la terre grâce à l'œuvre que Christ est monté au ciel, qu'il est devenu le chef de l'Église et que c'est lui qui envoie le Saint-Esprit, c'est lui qui envoie les dons, c'est lui qui envoie les richesses. Donc Paul fait une allusion qu'à la fois quand il est mort, il a libéré les captifs qui étaient dans le séjour des morts, mais en même temps, par sa montée au ciel, il a aussi fait les dons aux hommes, et notamment par toutes les richesses spirituelles. Et si on veut être encore plus technique, mais là j'espère ne pas vous embrouiller, il y a un passage qui peut être peut-être un peu étonnant. C'est Marie qui va au tombeau et elle voit Jésus. Et dans certaines traductions, en second en l'occurrence, mais t'entends c'est traduit beaucoup mieux que ça, Jésus lui dit, ne me touche pas, je ne suis pas encore glorifié. En fait, ce n'est pas le mot « toucher » au sens comme on s'entend « toucher »,« je touche quelqu'un ». En fait, le vrai terme, je ne sais pas pourquoi il a traduit le mot « toucher », c'est le mot « retenir ». Donc, ne me retiens pas, je ne suis pas encore glorifié. Mais là, il parle de son corps. Son corps est bien resté dans la tombe. C'est en esprit qu'il est allé prêcher dans le séjour des morts, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. mais c'est son corps qui n'avait pas été encore glorifié, c'est-à-dire transformé à la gloire pour monter dans le ciel. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser perturber, parce qu'effectivement, le jour où Jésus a dit au brigand, je te le dis, tu seras avec moi aujourd'hui là, dans le paradis, ça s'est réellement fait. Et pourtant, en esprit, il a bien fait la connexion entre le ciel et la terre. De toute façon, il est Dieu. Hein, on n'est pas en train de parler d'un bonhomme qui a besoin de prendre le taxi pour être à un endroit et puis une fusée pour rattraper le temps. Non, il est Dieu, donc il est partout. Et quand il est ressuscité, quand son corps est ressuscité, effectivement, il dit à Marie, ne me retiens pas. Sous-entendu qu'il avait encore cette élévation céleste dans son corps glorifié. Alors, nous comprenons maintenant que dans le passage de 1 Pierre chapitre 3, lorsqu'il est parlé qu'il est allé prêcher aux esprits en prison, parlant des incrédules au temps de Noé, donc il est en train de parler de ceux qui sont ici. Ils sont en prison, et réellement en prison, parce que pour ceux qui, les incrédules, pour eux, il n'y a pas de solution. Ils ont dit non aux moyens d'hier, ils ont dit non à la foi, ils ont dit non au sacrifice pouvant les pardonner, ben ils restent dans leur incrédulité, ils restent en prison. Pour être complet, quel avenir du séjour des morts et de ces âmes en prison? Parce que bon, on peut comprendre que ceux qui sont dans le paradis feront partie du plan de Dieu avec lui, on ne se fait pas trop de soucis. Mais la question, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui va se passer alors du séjour des morts? Parce que quelque part, c'est un peu bizarre de laisser un œuf comme ça. On a la réponse. En Apocalypse, chapitre 20, verset 13. Apocalypse 20, 13. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Et donc on comprend qu'effectivement, ce séjour des morts, même pour eux, était déjà un temps d'attente, d'angoisse, de souffrance. Et ça se confirme par un jugement dernier. Et tout ça, ça va après dans les temps de feu, qui lui, à la base, est réservé pour le diable et pour les démons. Il n'y a pas plus de précision, si ce n'est qu'on sait que c'est un lieu de regret, un lieu de souffrance, et que malheureusement, ça dure une éternité. J'aimerais également pouvoir dire que certains textes nous montrent que ça pourrait durer juste un petit temps, ou un temps incertain, un temps limité, mais il nous est parlé d'un feu qui ne s'éteint pas. Alors nous ne pouvons pas prêcher autre chose, et même si cela, on voudrait que ce soit autrement. Mais voilà, en ce qui concerne le séjour des morts dans sa globalité. Et nous pouvons dire merci Seigneur d'avoir cru en lui, de croire en lui, de demeurer dans la crainte et surtout de ce qu'on ne connaîtra jamais, le séjour des morts, même dans cette attente, même si elle est paisible, mais d'avoir la chance, par la foi, d'y aller directement dans la présence même. Est-ce qu'il y a des questions sur le séjour des morts?
Du coup, alors, Jésus, quand c'est écrit qu'il a été parlé en esprit à ceux qui étaient... il a été aussi s'adresser à ceux qui sont dans un endroit, alors?
En fait, alors nous, on a une vision très... un peu compartimentée, du genre, il est d'abord au premier étage, et puis après, il est allé au deuxième étage. On est dans un milieu spirituel, donc lorsque techniquement je crois qu'on est dépassé, mais par l'esprit, l'annonce de sa mort et donc de sa victoire sur la mort a été annoncée aussi bien à tout le séjour des morts, en fait.
Ok, mais de toute façon, ceux qui étaient dans le sang d'Abraham, ils étaient déjà croyants, même s'ils n'avaient pas encore invoqué, c'était avant que Jésus vienne.
Ouais.
De toute façon, il faut bien que, comme ils croyaient déjà dans le Seigneur, dans le Seigneur, l'Éternel.
C'est ça.
Et bien du coup, et qu'ils vivaient leur vie avec leurs règles et tout, mais par la foi.
C'est ça.
Vraiment. Et bien ça veut dire que... Enfin, c'est ça que je me demande, moi. Uniquement, c'est quoi les textes? Comment ça s'est passé pour eux, quoi?
Ils étaient dans la tente. Et puis effectivement, alors c'est là où la notion technique, ça nous échappe évidemment. Mais effectivement, quand ils ont entendu que le sacrifice parfait a été accompli, eh ben c'est là que tout a été accompli pour eux. Mais là, effectivement, on est dans une dimension qui techniquement nous échappe, parce qu'on est très papier, logement, mais c'est spirituellement que ça a été annoncé, ouais, avec force, avec puissance.